Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour.
Hello.
Bonjour.
Salut à toutes et à tous.
Nous sommes le vendredi 22 mars 2024. Il est 12h30 pile et c'est l'heure des infos choisies.
Bienvenue.
Bienvenue. Alors, bienvenue sur donc Radio Galère 88.4 et en Avignon sur Radio Ayoli. Ok, on commence ?
Let's go.
On va commencer par un petit édito. Merci. Alors, il y a trop de confusion, une confusion qui met mal à l'aise. Depuis les interdictions de manifs contre la guerre et la colonisation en Palestine, depuis la marche contre l'antisémitisme organisée par les gens de pouvoir, et maintenant, avec les prises de position intempestives et convulsives autour de l'exclusion d'une étudiante à Sciences Po Paris, lors de la journée européenne en solidarité avec le peuple palestinien. La récupération politique autour de l'antisémitisme nous oblige aujourd'hui à parler et à dire haut et fort que nous ne rentrerons pas dans leur manigance politicienne et malsaine. Il est hors de question de répondre à leur cacophonie. Et c'est pour cela que nous voulons nous adresser aujourd'hui à nos proches, à nos camarades, à nos amis, à nos voisins, qu'ils et elles soient de confession ou d'origine juive, ou qu'ils et elles soient de confession ou d'origine musulmane. Et cela, bien que nous avons la conviction que ça n'a rien à voir avec une histoire de religion. Nous sommes ensemble et solidaires contre les oppressions et la domination de classe, contre toutes les violences racistes, homophobes et sexistes que vous subissez, quelles que soient vos origines. Et ici, nous faisons deux constats. Il y a un racisme historique en France. D'abord, contre toutes les personnes issues de l'immigration, et particulièrement contre les personnes issues de la colonisation et dont les parents viennent du Maghreb et assimilées trop facilement à des musulmans. Il y a aussi un antisémitisme historique en France, contre les personnes dont les origines sont juives et qui vivent avec le souvenir terrible de la déportation et du génocide de la Shoah. La plupart d'entre nous se retrouvent une fois de plus au milieu des guerres menées par les puissants, motivées par des intérêts économiques et contre les peuples. Ces mêmes ordures qui nous demandent de nous positionner dans le bon camp, qui serait le leur, celui des armes et de l'argent. Nous voulons dire ici que nous sommes aux côtés de celles et ceux qui subissent leur oppression. Nous sommes aux côtés de celles et ceux qu'ils exploitent. Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui meurent sous leurs bombes. Et nous n'avons pas attendu leur marche pour combattre dans la rue l'antisémitisme. Où étaient-ils quand les plus jeunes d'entre nous attaquaient les FAF, skinhead à la sortie d'un concert rack où fleurissaient des zigs et des croix gammées? Où étaient-ils quand nous attendions la manif du 1er mai du Front National avec son lot de néo-nazis sur les quais de Seine pour en découdre à coups de batte de baseball? Où étaient-ils quand il n'y a pas si longtemps que cela, l'évocation des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale ne prenait que deux lignes dans leur livre d'histoire? Nous avons aujourd'hui le besoin d'exprimer nos craintes, parce que dans tout ce bordel, nous avons peur que si demain, l'un ou l'une d'entre nous dit être victime d'agressions antisémites, elle ne soit pas crue, parce que trop de paroles manipulées nous submergent. Nous savons que lorsque ce que nous subissons est minimisé ou nié, c'est la double peine. Parce que nous sommes femmes, racisées, trans, queer et précaires, sachez que quoi qu'en disent ceux qui veulent nous diviser, nous vous croirons.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Choisies, vendredi,
les midi infos 30. Choisies, vendredi, midi 30.
Dans les quartiers nord de Marseille, au lendemain d'une opération antidrogue de grande ampleur, au cœur de la cité de la Castellane, la présence policière s'intensifie. Le président de la République arrive. Une visite surprise. Le maire de la ville, présent à sa gauche, n'aurait été mis au courant que 2 heures plus tôt seulement.
Tout va bien ? Tout se passe bien ? Tout se passe
très bien. Ouais, Manu !
Mais qu'est-ce que t'as fait hier, gros? Je sais pas, frère, tu fais des pas, gros. Tu fais des tours surprises, tu arrives et tu débarques à Marseille, gros. Hein? Elle vient de te boire un coup. Elle dit nous ce que tu as dans le cœur, gros. Je sais pas, tu débarques, gros. Tu es là, tu es plein de journalistes et machin. Dans tous les journaux, frère. Dans tous les journaux, ça parlait de Marseille. Et une descente à Marseille, les CRS sont venus, Macron débarque sans prévenir. Je sais pas, tu es venu gambader, tu es venu te la faire souple, frère. Pourquoi au final, en gros, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es promené. Ça va, il était bon le soleil, le climat. Ça t'a plu? Tu as vu, il faisait beau hier. Elle te plaît, notre ville. Et je le sais qu'elle te plaît, notre ville. Même notre club, il te plaît. Ouais, je le sais, ouais. Eh non, mais c'est pas comme ça, Manu. Quand tu arrives, là, que tu fais tes événements, c'est même pas des interpellations, c'est des événements, gros. Tu as fait un booking hier à la Castellane. Parce que, voilà, tu t'es montré, tu as pris 2-3 numéros, machin, tu as dialogué, hein. Tu nous as endormi, le violon, la flûte, hein. On la connaît, tous ces instruments, gros. On les connaît. Maintenant, Manu, maintenant, je sais pas si tu es venu à Marseille pour te faire dorer un peu la pilule, tu vois, ou te faire un peu passer de la pommade, tu vois, parce que je t'explique, au cas où, ouais, tu as vu là, en ce moment c'est chaud, Russie, Ukraine, toi tu te mêles, tu vois, toi tu es là, tu veux un peu aider tout le monde, oh l'abbé Pierre, détends-toi gros, parce que la guerre, si tu veux y aller à la guerre, tu vas y aller seul là gros, non mais je te le dis, donc Manu, quand tu viens à Marseille, préviens un peu les gens, gros. Non, mais qu'on discute, qu'on sache un peu ce que tu as dans le teston, hein, frère. Parce qu'elle est un peu grosse, la tête, tu vois. Tu dois avoir des choses à dire, hein. Quand tu viens à Marseille, Manu, téléphone, tu vois. Voilà, parce que les contrôles surprises, moi, ça m'a gonflé. Tu as compris ou quoi? Donc, sur ce, je t'embrasse, gros. Eh bien, tu m'as gonflé, gros, bisous.
Ok, on embrasse aussi Ben Gousse, merci pour ce petit coup de gueule bien savoureux. Et maintenant, on enchaîne.
Mosca na harede, sira
êtes toujours sur Radio Galère 88.4 à Marseille. C'est les infos choisies. On vient d'écouter Sarah Algan. J'espère que je prononce bien. C'était vraiment très cool. Alors en France, on kiffe le foot et on kiffe la laïcité. D'ailleurs, on dirait que ça n'a pas trop évolué depuis le 18e siècle. Bah, pour la laïcité, quoi, pour le foot. Alors qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, les fédérations elles permettent aux joueurs qui observent le ramadan de rompre le jeûne en vitesse pendant un arrêt de jeu, un coup franc, une blessure, quelque chose comme ça. En France, la FFF, donc la fédération de foot, elle interdit l'aménagement des matchs pour permettre aux joueurs de casser la graine et de boire un coup. C'est la laïcité à la française, la religion ne doit pas être visible dans le sport, c'est comme ça. Pareil pour l'équipe de France et certains clubs, les joueurs qui jeûnent sont systématiquement exclus des sélections. Cette fois pour des raisons de performance supposément moindres, alors que c'est faux en plus. Il y a quelques temps, c'était aussi des femmes qui portent le voile qui avaient été interdites de jouer, c'est une interdiction dans les statuts de la fédération. On dirait que c'est une performance de créer des problèmes là où il n'y en a pas, à un tel niveau. Et bah, ça reflète aussi, plus généralement, l'obsession envers l'islam des institutions françaises et aussi une rigidité un peu rétrograde en France par rapport aux pays voisins. Et c'est assez, assez désolant.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et pendant ce temps-là, EDF achète des stocks d'uranium enrichi à la Russie. Voilà, petit rappel que nous vivons dans une économie de guerre et que nous sommes bien sûr concernés par les millions de chiffres d'affaires des entreprises françaises et de leur collusion avec les guerres et les autres États. Ce jeudi s'est tenu le sommet sur la relance du nucléaire que le gouvernement belge et l'Agence internationale de l'énergie atomique organisaient à Bruxelles. Et la France avait la plus grosse délégation du continent. Paris voulait y promouvoir l'atome au nom du climat et de la souveraineté énergétique. Mais il y a un petit hic, parce que la France continue d'importer chaque année d'énormes quantités d'uranium russe, remplissant ainsi les caisses de l'entreprise d'État Rosatom. C'est l'un des secrets les plus gênants du nucléaire français, alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 2 ans et que Vladimir Zelensky vient de protester contre les pays qui sont leurs partenaires, mais qui financièrement sont les partenaires de la Russie dans cette guerre. Et ouais, c'est ça, Macron, les démocraties européennes, c'est être sur tous les fronts. Donc, le président ukrainien appelle l'Union européenne à renforcer ses sanctions contre la Russie et à y intégrer les dirigeants de Rosatom qui ont pris la direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia. En 2023, les importations russes par la France ont représenté l'équivalent d'un peu moins d'un tiers de la quantité d'uranium enrichi nécessaire à faire tourner ces 56 réacteurs, autour de 223 tonnes. Au sein du monde nucléaire hexagonal, c'est le grand déni. Interrogé par Mediapart, le cabinet de Bruno Le Maire, désormais chargé du nucléaire, semble tomber de sa chaise. Je cite... C'est complètement faux. La France ne dépend pas de la Russie pour l'enrichissement de son uranium. C'est bien les choses... Non.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas vrai. Ok, bon. L'Élysée contourne l'obstacle en expliquant que le président de la République a été extrêmement clair sur sa volonté de renforcer la souveraineté de la France et de réduire la dépendance sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, car le nucléaire est un élément constitutif de notre souveraineté. Voilà ce qu'il dit. Donc voilà, des déclarations, sachant que ici, c'est important de rappeler qu'on est... contre le nucléaire, que le nucléaire c'est aussi la guerre par rapport à c'est l'armée qui est obligée de protéger les centrales, que c'est extrêmement dangereux de transporter notamment cet uranium enrichi. Ce sont des aberrations, mais en plus que Macron veut promouvoir de nouveau le nucléaire, c'est encore plus une aberration, et avec tous ces enjeux autour de la Russie. Voilà. Mais on peut se poser une question, si au nom de cette souveraineté nucléaire, Paris importe de plus en plus d'uranium russe, n'est-ce pas plutôt un signe d'une grave dépendance aux pays les plus belliqueux et dictatoriaux du continent ? Voilà une question qui est adressée dans un article que je vous recommande très complet de Jade Lingat sur... j'allais dire n'importe quoi, sur Mediapart. Voilà, voilà. Donc, pour voir les paradoxes dégueulasses des démocraties et pourquoi la France veut rester maîtresse de l'Europe en faisant des choses comme ça.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, la semaine dernière... les flics ont encore fumé un jeune à scooter. Il s'appelait Wanis, il avait 18 ans et c'était à Aubervilliers. C'est une voiture de la BAC sans gyrophare, à contresens, à pleine vitesse, qui l'a emplafonné. Alors que lui et son pote avaient déjà des équipes derrière eux, dont une qui avait, donc des voitures derrière eux, dont une qui avait déjà essayé de les renverser sans succès. Les BACeux disent qu'ils ont dû éviter un taxi qui déboîtait devant eux, et qu'ils ont percuté le scooter par accident. Le survivant, lui, il raconte que les Condés étaient fous de joie, c'est ces mots, qu'ils ont dit « Yes, on a réussi à les renverser », alors que Wanis et lui-même quoi, avaient été éjectés du scooter, et Wanis avait percuté un camion stationné, et il est décédé quelques minutes après. Ils sont inquiétés qu'il n'y ait pas une caméra aux alentours qui ait pu les filmer. Et quand ils se sont rendus compte que le survivant était conscient, ils ont essayé, selon lui, de l'étouffer. Après, ils l'ont traîné sur le trottoir. Il y a une vidéo qui montre ça. Alors qu'il souffre, il est encore à l'hôpital, il souffre d'une fracture du bassin et de la cheville. Et que, je sais pas, même moi, je sais qu'on ne déplace pas une victime d'un accident de la route quand on n'est pas tout bib. Évidemment, comme à chaque fois, les médias et les réacs invoquent le délit de fuite comme un crime qui apparemment mérite la mort. Et effectivement, j'ai lu chez Mediapart que jusqu'en 2020, à Paris et dans les départements aux alentours, les directives de la préfecture de police ne justifiaient la poursuite de véhicules qu'en raison de faits particulièrement graves, donc en gros des violences sur des personnes. Parce que une course-poursuite, c'est dangereux pour tout le monde. Et à partir de juillet 2020, l'infâme préfet Lallemand élargit les cas de figure où les équipages sont autorisés à prendre en chasse des véhicules, dont le délit de fuite. Ce qui est ouf, c'est que c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent à intervalles réguliers, toujours les mêmes flics qui sont couverts, et quand il y en a un qui saute parce qu'il est lâché par ses collègues ou sa hiérarchie, il prend pas bien cher. Et on nous dit qu'il s'agit de la fameuse brebis galeuse qui n'est pas représentative de l'institution. Nous, on trouve que ça fait beaucoup et on dit que l'institution, elle est raciste, elle est violente et qu'elle contribue à créer de la violence, qu'elle jouit de l'impunité devant la justice parce que c'est grâce à la police que le pouvoir se maintient. Donc il y a des enquêtes qui ont été ouvertes contre les flics et... je sais pas trop comment c'est possible, mais également pour le délit de fuite. Voilà.
L'agenda des infos choisis.
Et maintenant, c'est l'agenda. Aujourd'hui, c'est le week-end annuel de mobilisation et de récolte de fonds au profit d'associations de lutte contre le VIH et le SIDA et de la recherche médicale en sciences sociales sur la maladie. Donc c'est le SIDAction, c'est le week-end SIDAction. Et dans le contexte de ce 30e anniversaire, l'édition 2024 rappelle la nécessité de ne pas arrêter le combat contre le virus du SIDA, parce qu'en fait il y a 630 000 personnes qui sont mortes de maladies en 2023, de maladies liées au SIDA en 2023 dans le monde, et qu'une personne sur quatre n'a pas accès au traitement. Et la recherche doit encore se poursuivre vers un vaccin et vers un traitement permettant de contrôler définitivement le virus et surtout de le rendre accessible pour tout le monde. Aujourd'hui encore, vivre avec le VIH demeure une réalité très stigmatisante pour les personnes nouvellement contaminées ou vivant avec le virus depuis plus longtemps. Et là maintenant, ah, on oui. passe à...
Alors c'est quoi? C'est dimanche 24 à 17h30. La permanence du spam ouverte et accueillante chaque deux semaines, les premiers et troisièmes dimanches du mois de 17h30 à 19h30 à Manifestaine 59 rue Thiers, pour s'organiser ensemble autour du soin psycho-émotionnel, de l'autodéfense et l'anti-répression dans nos luttes. Toutes les permes ont pour fil rouge de cuisiner et manger un repas ensemble, de pouvoir se poser, boire une tisane ou un verre, consulter l'info kiosque, discuter de soins anti-rep, des luttes ou de ce que tu veux, partager des outils et des ressources sous formes diverses. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble aux besoins des personnes, des collectifs ou des amis autour de soi, et comment le spam pourrait les accompagner.
Ok, samedi 23 mars, donc demain, on revient un peu en arrière. Il y a aussi un festival kurde, mais je vous laisserai le dire. Donc samedi 23 mars à l'ADA, à 17h, il y a une soirée antifasciste où des camarades italiens viendront faire un point sur l'affaire dite de Budapest, qui est suivie d'une présentation de la BD In fondo al pozzo de Zero Calcare sur cette affaire. Il y aura aussi une discussion, un repas et des concerts, et ce sera à l'ADA, 127 rue d'Aubagne.
Ok, il y a le festival kurde à l'occasion de Nowruz, qui est qui correspond au nouvel an. Festival qui a commencé hier. Ce soir, il y a au cinéma Le Gyptis à 19h30, il y a la projection du film documentaire 9 jours à Raqqa, réalisé par Xavier de Lausanne. C'est 7 ou 6 euros. Samedi à 20h à la Friche de la Belle de Mai, lecture, récit et chant chronique du Kurdistan accompagnant la sortie du roman L'Homme Tempéré. Là c'est l'occasion d'un spectacle, le spectacle L'Homme Tempéré d'Eli Guilou. C'est à la Friche de la Belle de Mai à 20h. Et dimanche 24 à 19h, toujours à la Friche, concert d'Eléonore Fournio Quintet, musique et chant kurde.
Et sinon, dans quelques semaines, il y a des stages d'autodéfense qui vont se mettre en place à l'occasion de l'ouverture du nouveau centre LGBTQIA+ de Marseille. Le premier centre LGBTQIA+ de Marseille d'ailleurs, une série de 3 stages pour les personnes de la communauté LGBTQIA+, il faut le dire plein de fois en fait, c'est le but de nos infos. Parce que nous ne sommes pas exposés aux mêmes agressions selon les manières dont nous sommes perçus dans les rapports de genre. Des stages donc sont proposés dans différentes mixités. Donc 6 et 7 avril, stage gay pour hommes gays et PD cis, trans et non binaires. 22 et 23 juin, stage femmes pour lesbiennes et femmes trans. 12 et 13 octobre, stage queer pour personnes trans et non binaires en questionnement qui ne se reconnaissent pas dans les catégories hommes ou femmes. Et le but donc de l'autodéfense féministe telle qu'elle est pratiquée dans ces stages est de donner des outils face aux agressions touchant spécifiquement les personnes LGBTQIA+, mais aussi face à diverses formes d'agressions auxquelles nous pouvons être exposées, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, commises par des proches ou des personnes inconnues. Voilà, pendant ces stages, on apprend des techniques physiques et verbales, simples et immédiatement efficaces, qui permettent de mettre fin à une situation désagréable ou dangereuse, afin de diminuer les peurs, de gagner en confiance en soi et de se renforcer individuellement et collectivement dans un cadre convivial. Donc ça se passera au centre LGBTQIA+ de Marseille. Dont j'ai pas l'adresse ici, c'est la grosse blague. C'est vers le vieux port, donc voilà. Ça sera 2 journées, il faut compter 2 journées par stage de 9h30 à 16h30, c'est quelque chose d'engageant. Les places, c'est 12 personnes par stage. C'est en langue française, c'est à prix libre. Et pour s'inscrire, c'est riposte-queer@riseup.net. Et je vous encourage fortement. et chaudement à faire des stages d'autodéfense parce que ça aide tout le monde. Et même si on a déjà fait des arts martiaux et qu'on a l'impression qu'on gère tout ça, en fait on voit d'autres choses et on voit, et voilà, c'est hyper important de le faire. C'est 21 rue du Chevalier Rose.
Stylé.
LGBTQIA+, et Rose c'est écrit avec un Z, Z-E. Voilà.
Merci. On touche à notre fin, non?
Ben on dirait.
Oh oui, on dirait.
Alors merci de nous avoir écoutés.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement. À bientôt.
Stay tuned. Et ciao.
Et puis dans quelques instants, ça sera l'agenda alternatif.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.